Les nuages déversent la pluie et tout est gris. Et moi, devant tout ce décor, j'en éprouve de l'ennui. Mais quand je pense aux fruits que nous produit la pluie, je t'en suis reconnaissante. Et c'est pourquoi, moi, je te chante. Seigneur, plein de sagesse, Seigneur, tu es amour. Seigneur, plein de tendresse, tu nous bénis chaque jour. Fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes chemins. Conduis-moi dans la vérité et jusqu'à l'éternité. Dans ma vie de tous les jours, il peut pleuvoir aussi. Et même ce que je fais n'est pas toujours très réussi. Mais comme tu es mon Père, tu agis pour mon bien. Et en tes voies, j'espère. Non, je ne crains rien. Bonjour à tous. Bienvenue à bord pour ce culte sur le thème de l'eau. Sentez-vous accueillis, habitués de ces bancs ou nouveaux parmi nous, mais toujours dans le respect des règles barrières. Marie-Vonne et moi serons à la manœuvre ce matin et animerons le culte accompagnés par les matelots de l'orchestre, par nos deux amiraux Agnès et Antoine pour la confection et la projection, et nous deux mousses, Frédéric et Christophe, qui vous ont accueillis. Merci à eux et à vous tous pour votre présence. Nous chanterons les cantiques qui sont affichées sur le tableau. Vous trouverez les cantiques dans les livres, mais ils seront aussi projetés. Je vous invite à vous lever. Louons Dieu. La gratitude ne fait pas trop partie de nos habitudes, et pourtant, elle peut faire tellement de bien. J'exprime donc ma profonde gratitude pour la vie et sa force incroyable, toutes les surprises qu'elle nous réserve. Elle va et vient librement, rien ne l'arrête. Chacun de mes semblables me fait grandir, rire, sourire, pleurer, admirer, espérer, aimer et me bouscule intérieurement. Dame nature qui m'émerveille et me ressource si souvent, impossible de ne pas la remercier et te remercier pour tant de beauté. Chaque enfant, femme, homme, qui sans le savoir me renvoie un message fort sur le courage, les raisons de vivre qui en valent la peine. Ils me disent des mots vrais. Merci à eux et merci à toi de les avoir mis sur mon chemin. Les écrivains, les musiciens, les artistes qui nourrissent ma foi de découvrir Dieu qui n'est jamais très loin, source d'inspiration. Je l'espère, je le crois, je le loue. Merci Seigneur. Amen. Nous allons chanter le cantique 5503, « Tu fais jaillir en moi », que vous trouverez à la page 895.
Fais jaillir en moi des fontaines de joie. toi. Tu fais jaillir en moi des fontaines de joie. Ô Seigneur, quand je pense à toi, tu veux un peu plus chaque jour à ceux qui te cherchent avec amour, à ceux qui ont soif de toi.
Et j'invite Antoine et Nils à nous raconter une histoire.
Nous allons vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un petit poisson. Un petit poisson entend dire un jour que les poissons ont besoin d'eau pour vivre. Or, l'eau, il ne l'a jamais vue. Il en parle à la sardine son amie, mais elle non plus n'a jamais vu l'eau. Elle lui conseille d'aller voir la murène.
De l'eau, tu n'en trouveras pas ici. Ici, il n'y a que du sable, des rochers, des algues et des coquillages. Renseigne-toi auprès du poisson-chat, il prétend toujours tout savoir. L'eau, lui explique le poisson-chat, est au-dessus de toi et en dessous de toi. Elle est devant toi et derrière toi, au-dedans de toi et tout autour de toi.
Notre poisson regarde tout autour mais ne voit rien d'autre de ce qu'il voit d'habitude. Comme la science du poisson-chat est inefficace, il va consulter la baleine.
« Mets-toi sur mon dos !» dit simplement la baleine. Et la voilà qui commence à monter, monter, monter. Le petit poisson voit la clarté de la surface s'approcher rapidement jusqu'à ce que la baleine s'arrête, immobile, le dos au-dessus du niveau des flots. Le petit poisson a l'impression qu'il va exploser. Il croit sa dernière heure arriver et s'évanouit. Lorsqu'il se réveille, il est étendu au fond de la mer et il reprend ses esprits. Il ne sait toujours pas ce qu'est l'eau, mais il a compris qu'elle le fait vivre et qu'il ne peut s'en passer.
Bonjour les enfants, est-ce que vous avez bien écouté l'histoire qu'Antoine et Nils vous ont racontée? Oui? Ça parlait de quoi? Vas-y. D'un poisson qui cherchait quoi? De l'eau. Est-ce que vous savez à quoi ça sert l'eau? À boire. Sinon ça sert à quoi? J'ai entendu. À part à boire et puis aussi à se laver. À vivre, oui. Et pourquoi le petit poisson, il ne voit pas l'eau? Parce que l'eau rentre dans ses yeux, oui. C'est vrai qu'il n'a pas de lunettes pour aller sous l'eau, c'est bien, oui. Pourquoi il ne voit pas l'eau aussi, d'après vous? Les plus grands, pourquoi il ne voit pas l'eau? Parce qu'il est dedans, oui. Comme nous, on ne voit pas l'air, oui. Mais, oui. Parce qu'il y est depuis tout le temps, donc il ne se rend pas compte que... Bah. Ouais. Est-ce qu'on est obligé de voir les choses pour être sûr qu'elles existent? Non? Pourquoi alors? Qu'est-ce qu'il y a qui existe et qu'on ne voit pas? Par exemple, ouais, l'air. Pas d'autre?
Le gaz,
vous voyez? Est-ce qu'il y a d'autres choses, les plus grands? Est-ce qu'il y a des autres choses qu'on voit, qu'on ne voit pas, pardon, mais qui existent? Dieu, vous voyez bien. Et aussi, quoi d'autre? Il y a Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Saint-Esprit. Mais aussi, plus généralement,
les émotions,
oui.
L'amour.
Bien, Léonie, l'amour. Il est où, Fred? L'amitié. La colère, c'est des choses qui ne se voient pas, mais qui existent.
Les sentiments.
Les sentiments, voilà. Donc, en fait, cette histoire du petit poisson, c'est pour vous dire qu'il y a évidemment des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Et comme l'eau pour le petit poisson, elles sont essentielles pour nous. Oui. Voilà, il y a quelqu'un qui a acquiescé, je suis contente. Et avant donc de continuer, je souhaite partager avec vous ce verset 1 du chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Et donc, nous nous mettons debout pour chanter le cantique 45-10, « J'ai soif de ta présence ».
De l'amour de Jésus-Christ, unissons-nous dans la prière avec un texte, une prière de Caroline Raspeau, publiée dans la revue Réveil de novembre 2020. Éternel, me voici devant toi tel que je suis, avec mes tempêtes et mes bourrasques, mes éclaircies et mes douceurs. Je traverse au cours de ma vie différentes pulsions, sentiments, humeurs. J'ai peur parfois, Éternel, de m'y perdre. Lorsque je me sens volcanique, prête à faire jaillir le feu de la lave qui brûle, lorsque je me sens torrentielle, avec mes larmes qui ne cessent de couler, lorsque je me sens un cyclone, tel un cyclone prêt à emporter tout sur mon passage, lorsque je me sens comme un arc-en-ciel, en harmonie avec moi-même, mais inatteignable pour les autres, lorsque je sens mes pensées virevolter de fleur en fleur, comme la brise des alizés. Merci, Éternel, d'être simplement là, près de moi, afin que mes humeurs soient passagères, qu'elles ne m'emportent pas dans le tourbillon du moment, mais que je puisse ancrer mon sentiment le plus profond sur le roc de ta parole, fondé sur les fruits de ton amour, qui nous place dans l'espérance, l'accueil de l'autre, la confiance, la tendresse et la tranquillité. Merci Éternel. Amen. Et pour accueillir cette parole qui nous pardonne telle que nous sommes, nous écoutons la prière de Nicolas Boutier, publiée dans la revue Réveil de l'été 2020. Merci Seigneur pour ton eau vive. Elle nous ressource et nous nourrit. C'est en elle que toute créature trouve sa force. Elle est précieuse quand il fait soif. Elle est précieuse quand tout est sec. Elle est précieuse quand elle nous conduit. Elle nous détend dans nos temps de vacances. Elle irrigue nos jardins luxuriants. Elle est une source inépuisable de jeux avec les enfants. Ayons conscience de sa valeur et de sa richesse. Sachons la préserver et la protéger. Que cette eau vive coule en nous. Que ta parole nous inonde de tes bienfaits. Que cette eau vivifiante nous porte et nous conduise. Merci Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vous propose de rejoindre vos groupes, les petits. Seigneur, je te remets ma vie tout entière, les années, les mois et chaque minute, le passé, le présent et l'avenir. Que par ta grâce, je sois bien à ma place au moment prévu, auprès des hommes et des femmes que je peux aimer et servir de ta part. Aide-moi aussi à être auprès de mes proches prochains, mon mari, nos enfants, famille et amis, que je puisse être ce repère modeste et fiable. Apprends-moi à être simplement et sans détour ce que je suis, être avec toi, être pleinement présent aux autres, être et ne pas toujours faire. Être et me recentrer toujours autant que possible sur l'essentiel de ma vie. Être et donner toute sa place à l'amour, car finalement c'est l'amour qui subsiste. C'est ce en quoi je crois, car c'est aussi l'amour qui est et restera à mes yeux la cause la plus valable, la plus forte, la plus vraie et la plus authentique sur cette terre. Avant de se mettre à l'écoute des Écritures, nous lisons dans Ésaïe, chapitre 55, les versets 10 et 11. En effet, dit le Seigneur, la pluie et la neige tombent des cieux, mais elle n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elle procure ainsi de la semence au semeur et du pain à ceux qui ont faim. Eh bien, il en est de même pour la parole qui sort de ma bouche. Elle ne vient pas à moi sans avoir produit des faits, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Prions. Mon Dieu, apprends-moi les tant pis qui sont tant mieux, les doutes qui sont routes, les pertes qui sont portes, les vides qui sont vitres sur l'au-delà des yeux, sur l'en-dedans de toi. Recrée-nous à ton image, recrée ta parole. Parle, mon Dieu, je t'écoute. Et j'invite Méaurore et Émile à nous lire les textes de ce jour.
Lecture du livre d'Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8. Ésaïe se met au service du Seigneur. C'était l'année où mourut le roi Ozias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps et 2 à voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. La terre entière est remplie de sa glorieuse présence. » Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots et le temple se remplit de fumée. Je dis alors, « Hélas, me voilà condamné au silence car mes lèvres sont indignes de Dieu et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. » Or j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit « Ceci a touché tes lèvres. Ton indignité est supprimée. Ton péché est effacé. » J'entendis alors le Seigneur demander « Qui vais-je envoyer ? Qui sera notre porte-parole ?»« Moi, » répondis-je, « tu peux m'envoyer. »
Frère, je vous désire pour rappeler maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous êtes fermement attaché. C'est par elle que vous êtes sauvé, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée, autrement vous auriez cru inutilement. Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau. Et il est revenu à la vie le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples. À la fois, la plupart d'entre eux sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, bien que je sois pareil à un être né avant terme. Je suis en effet le moindre des apôtres. À vrai dire, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les apôtres. Non pas moi, en réalité, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Ainsi, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà que nous prêchons. Voilà ce que vous avez cru. Jésus appelle les premiers disciples. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux baraques près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des baraques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la baraque. Non, dans la barque. Bon, je recommence. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques et tenait à Simon et appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance plus loin. Là où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent, donc, et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ensemble ils remplirent les deux barques de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il se mit à genoux devant Jésus et dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, était en effet saisi de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en était de même des compagnons de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus a dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Ils ramenèrent alors leur barque à terre, et laissèrent tout pour suivre Jésus.
Donc l'ordre des textes, c'était Ésaïe, ensuite 1 Corinthiens et ensuite dans l'évangile de Luc. Merci. Il y a quelques mois, lorsqu'avec Francine, nous avons choisi de rythmer les cultes familles sur les thèmes de la création, nous avions noté ce culte du 6 février comme étant celui sur le thème de l'eau. Alors pour tous ceux qui ont raté les épisodes précédents, il y a d'abord eu un thème sur les arbres, ensuite sur les graines de moutarde, sur la colombe, sur les animaux, et aujourd'hui donc sur l'eau. Nous n'avions pas du tout regardé quels seraient les textes proposés pour aujourd'hui. Et du coup, tombé sur le texte de l'appel des premiers disciples qui se déroule sur l'eau, avec l'épisode d'une sorte de pêche miraculeuse, nous avions trouvé le hasard très heureux. À titre personnel, c'est également une chance pour moi de pouvoir échanger avec vous sur ce texte, car c'est un extrait qui a été et qui reste fondateur pour moi. Pendant longtemps, je mettais en parallèle ce texte avec celui qui figure un petit peu plus loin dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, notamment le verset 40, mais c'est l'extrait intitulé « Heureux les serviteurs qui veillent » et notamment « Tenez-vous prêts, vous aussi ». Car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Je mettais facilement ces deux textes en écho. D'un côté, le texte d'aujourd'hui, dans lequel Jésus vient chercher ses premiers disciples, qui sont en train de travailler d'arrache-pied, est donc bien loin de toute considération spirituelle. Et de l'autre, cette injonction de rester en veille, car on ne sait pas quand la rencontre avec Jésus aura lieu. Le texte d'aujourd'hui que je résumerai comme étant celui des pêcheurs d'hommes, même si dans la traduction lue ce matin, ce n'est pas tout à fait écrit comme ça, il est noté « ce sont des êtres humains que tu prendras », ce texte m'a toujours questionnée. Tout d'abord, quand j'avais à peu près votre âge, les jeunes du caté, le jeu de mots entre pêcheur, celui qui pêche du poisson, et pêcheur, celui qui a commis des péchés, me plaisait bien. Ça faisait un peu rire. Et il y avait aussi l'idée que Jésus venait changer complètement les choses préétablies. Peu importe notre état, Jésus nous prend comme on est. C'était quelque part soulageant. Surtout pendant cette période d'adolescence où on a envie de s'émanciper de plein de choses et parfois d'être un petit peu borderline. Bien sûr, on nous conseille d'être toujours prêt un peu plus loin dans le texte sur les veilleurs. Mais en même temps, Dieu vient nous chercher tels que nous sommes, en état, brut de décoffrage. Ensuite, certes, je dirais un peu comme d'habitude, il n'y a que des hommes dans cet extrait. Mais malgré tout, même en tant que fille, je m'identifiais aux disciples qui, au milieu de leur quotidien, se trouvaient appelés par Dieu et y répondaient sans coup férir. Je m'interrogeais, et moi, Je veux bien être appelée par Jésus, mais pas tout de suite. Ou mais à condition que... Ce mais, évidemment, me questionnait et me questionne toujours. Et c'est ce mais qui m'a fait avancer et me fait encore avancer aujourd'hui. En effet, ce que je comprenais et comprends encore, c'est que répondre à l'appel de Dieu reste ouvert à vie. C'est une vraie bonne nouvelle qui donne sens. Mais revenons au texte et à notre souhait de l'intégrer dans notre thème de l'eau. L'eau a plusieurs fonctions et regroupe plusieurs symboliques. Tout d'abord, l'eau nous constitue, nous, êtres humains, pour 60% chez l'adulte et même 75% chez le bébé. L'eau guérit et fait du bien. Les adeptes de thalasso, de jacuzzi ne me démentiront pas. En plus, depuis quelques mois, je travaille au CADAS et je vous dis le nombre de piscines qui ont été construites. L'eau prend plusieurs formes aussi, solide, liquide et gazeuse. Elle peut passer facilement d'un état à l'autre. Alors là, un petit cours de chimie. Vous vous rappelez, alors pour les jeunes c'est récent, mais pour les plus âgés, est-ce que vous vous rappelez les mots qui signifient qu'on passe de l'état liquide à l'état solide? C'est là, oui, bien, solidification. Qu'on passe du gaz à l'état liquide. Non, du gaz à l'état liquide. Liquéfaction. Et alors là, moi, le mot que j'adorais, de solide à gazeux, la sublimation. Voilà, c'était magnifique. Bien la seule chose magnifique dans mes cours de chimie. L'eau épouse toutes les formes. L'eau ruisselle, elle s'infiltre. On ne peut pas la retenir. L'eau, c'est la vie. Parlez-en aux petits poissons de l'histoire racontée tout à l'heure. Mais symboliquement, l'eau, c'est aussi la vie. C'est une réalité physiologique, mais également un symbole. Quand on parle de la Bible, souvent, on parle de paroles de vie. Martin Luther écrivait « La Bible ne contient pas des mots à lire, mais des mots à vivre. » Symboliquement, l'eau, c'est aussi l'esprit, la parole. En hébreu, Sapha veut dire langue, parole, mais aussi bord de la mer. Le fait que Jésus, pressé par la foule, prenne le large à bord d'une barque, a donc une dimension symbolique. La foule est au bord du rivage et entend la parole. Comme l'eau, la parole s'infiltre, prend plusieurs formes et elle fait du bien. Jésus ne s'adresse pas de la même manière à la foule et à Simon. Sa parole prend une autre forme. Son discours s'adapte pour mieux porter. Le dialogue avec Simon, qui deviendra Pierre, montre aussi une nouvelle dimension. Simon a une relation de prime abord d'obéissance avec Jésus. Il l'appelle maître et il y a même le verbe obéir qui est utilisé. Et en même temps, il n'hésite pas à discuter avec lui. Il obéit, mais il est quasiment certain que ça ne servira à rien de remettre des filets dans l'eau. Simon est également celui qui va se demander pourquoi lui, le pécheur, peut être choisi. Il reconnaît son péché devant Jésus en lui disant « Éloigne-toi de moi !» comme s'il allait contaminer Jésus. Et Jésus ne répond pas directement à cette injonction, il lui dit simplement de ne pas avoir peur, et les disciples suivent. Dans l'évangile de Luc, il y a un signe de la puissance de Jésus, c'est cette pêche abondante. Si vous lisez cet extrait, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, il n'est pas du tout question de cette pêche abondante. La seule rencontre avec Jésus entraîne le changement de vie de Simon, André et les autres. Donc pourquoi Luc a-t-il rajouté cette dimension symbolique ? Simplement parce que la parole, comme l'eau, a un effet démultiplicateur, un côté exponentiel. Les filets pleins symbolisent cet effet multiplicateur. Dans le texte, on compare la maigre récolte des futurs disciples après une dure nuit de labeur et les filets pleins à craquer après la rencontre avec Jésus. La parole de Dieu a un effet démultiplicateur. Dieu donne sans compter à celui qui l'accueille, qui lui laisse une toute petite place au milieu de son quotidien. Chez Luc, la foule qui suivait Jésus, qui était en demande et qui attendait quelque chose aussi, a reçu sa part. Il n'est pas précisé quoi exactement. Mais plus loin, dans l'évangile de Luc, on comprend que certainement Jésus a dû annoncer la bonne nouvelle au travers de paraboles, par exemple. Et une fois que Jésus a donné son enseignement à la multitude, à la foule, ensuite, il prend du temps pour quelques-uns qui, eux, ne demandaient rien, n'attendaient rien. Jésus vient vers eux, il vient les chercher. La parole prend toutes les formes, comme l'eau, pour irriguer la vie de chacun d'entre nous. Et ce texte est aussi un miroir, comme l'eau peut être un miroir des contraires. La solitude de Jésus face à une foule immense, la foule en demande et des pêcheurs en train de travailler en marge. Jésus, le symbole du bien, qui vient chercher ces pêcheurs, qui ne ressemble pas au casting auquel on aurait pensé de prime abord. Des filets vides, puis des filets pleins. La peur des disciples face à cette pêche miraculeuse, face à cet événement incroyable, et la confiance transmise par Jésus avec sa phrase « N'aie pas peur ». Cette phrase reviendra souvent dans l'évangile de Luc, mais aussi dans les autres évangiles. La vie traditionnelle des disciples, pêcheurs de père en fils, et aussi le contraire, la nouvelle aventure qui s'ouvre pour eux suite à leur rencontre avec Jésus. Jésus ne nous dit pas « J'ai confiance en toi », mais il nous donne sa confiance. Il met sa confiance en nous. La confiance, étymologiquement, c'est faire avec. Dieu est avec nous. Nous ne sommes jamais seuls et nous sommes appelés à cheminer avec lui, à nos côtés. Malgré nos « mais », malgré nos « peut-être », il est là. Il nous appelle à faire avec lui. Amen.
Les moussaillons, ils laissent à désirer, hein, je vous dis. On a oublié de brancher le synthé, c'est ça qu'on n'entendait pas.
Je vous invite à vous lever, nous allons chanter.
Nous allons chanter le cantique 45-12, comme un fleuve immense. Et je crois que les chapitres, c'est le 1 et 3.
Et on va le jouer en entier aussi, parce qu'il n'est pas très connu.
Voilà, vous allez avoir la version entière. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons ensemble notre foi avec la confession de foi qui est projetée. Croire à l'instant présent, je vous invite à le dire avec moi, croire à l'instant présent qui se vit en plénitude, voir se lever le jour par une aube nouvelle, croire que rien ne pourra me séparer de ton amour, Seigneur, voir que tu es là, dans le regard bienveillant de mon prochain, croire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, voir que malgré tout, rien ne vaut une vie avec toi, Seigneur, croire qu'avec la pluie vient le beau temps, voir un bel arc-en-ciel, symbole de ton alliance avec nous, croire que les années passent comme l'eau coule d'une rivière, voir que ce chemin parcouru est riche de rencontres inattendues, croire au lendemain qui chante, la vie de l'espérance, voir ô combien tes bienfaits sont grands, Seigneur, croire pour mieux voir que l'amour demeure pour l'éternité. Amen. Je vous invite à reprendre place. Seigneur Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient, et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Que notre offrande soit l'expression enthousiaste de notre reconnaissance. Merci, Éternel, pour ces gestes de dons que tu suscites en chacun de nous, chaque jour et à ton service. Amen. Et maintenant, venu le temps des annonces. Christophe.
Bonjour à ceux que je n'ai pas salués. Je crois qu'effectivement, les moussaillons ne sont pas top ce matin. On va quand même les remercier, n'est-ce pas ? Donc je me remercie. Ah, pardon, il fallait remercier les autres avant ? Alors, donc, je remercie Marie-Vonne et l'orchestre. Je remercie Francine pour ce culte magnifique et Marie-Vonne pour la prédication, bien sûr. Et accessoirement, je remercie Frédéric. Il est où ? Ah, il est là. Non, parce que je me dis que quand même, tant qu'à faire de manger un moussaillon, à la fin de l'histoire, c'est on mange les moussaillons. Donc, voilà. Bon, enfin, bon, j'étais là pour faire les annonces au départ. Mais Marion m'a dit qu'il faut faire une blague. Alors j'ai fait une blague. Donc, les annonces. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est important. Alors, il y a la chorale à 20h, à 19h15 mardi. Il y a le groupe prière à 18h mercredi. Et puis on annonce, bien que ce ne soit pas tout à fait tout de suite, mais le 20 février, le dimanche 20 février, nous aurons la venue de notre futur pasteur, Thibaut de la Ruelle, qui vient passer une semaine de vacances à Annecy et qui donc terminera ses vacances par du travail, c'est-à-dire qu'il viendra prêcher dans notre paroisse donc le 20 février. Donc ce serait bien que nous soyons nombreux ce jour-là et pour le rencontrer une deuxième fois. Alors, il y a aussi l'appel de la CAT. Alors, je trouve que c'est quand même assez... C'est bien en relation avec le thème de toutes ces cultes familles, puisqu'il s'agit en fait de soutenir les victimes d'un drame à la fois écologique, mais pas seulement écologique, parce que dans les pays comme... Alors, c'est la Guinée, c'est pas toujours que... Enfin, les gens qui ne sont pas très écolos sont aussi assez violents, très violents même. Et donc, ils ont réussi quand même à avoir un procès, les victimes donc, de Zogota, je ne connaissais pas. Mais voilà, vous avez l'encart qui est disponible sur le présentoir pour connaître, hein, lire. Et puis c'est très simple. Ensuite, envoyer mettre un timbre et envoyer à l'ambassade de Guinée votre manifestation. Oui, donc c'est des personnes qui ont réussi à avoir un procès quand même, mais le procès traîne en longueur. Le gouvernement fait tout pour le retarder, puisque j'imagine qu'il y a des enjeux économiques terribles. Derrière tout ça. Donc voilà, pour soutenir la carte. Est-ce qu'il y a d'autres annonces que j'aurais oubliées ? Oui ? Ah oui. Donc le groupe Pain Parole Partage se réunit aujourd'hui même, après le culte, dans la salle en bas, d'accord, qui est disponible. Voilà. Et ? Alors, l'Assemblée Générale, oula, c'est quand la date ? 13 mars. Avec le mars, moi, j'entends pas. Hein. Le 13 mars. Et nous avons notre conseil demain. Tiens, j'ai oublié. C'est moi le président du conseil. J'aurais pas dû oublier. Provisoirement, hein. C'est parce qu'on tourne. Chaque conseil, il y a un nouveau président. Donc, je vais pas être le président très longtemps. Bon, mais enfin, bon, je m'y ferai. Voilà.
Alors, j'avais l'intention de remercier aussi Christophe, mais c'est auto-remercié, donc tout va bien. Je vous remercie aussi à tous d'être là, d'être présents. Sans vous, nous ne serions pas là. Prions les uns pour les autres. À toi, Seigneur, qui à travers toutes ces rencontres porte mon chemin, merci. Donne-moi de te faire pleinement confiance, plutôt que de chercher à tout porter, tout contrôler. Donne-moi d'être disponible à la rencontre, pour que chacune d'elles soit le lieu d'une rencontre avec toi. Donne-moi d'accepter que ces rencontres puissent être lumineuses, mais aussi parfois plus sombres, plus difficiles à appréhender. Et que c'est aussi dans mes fatigues et mes lassitudes que se trouve l'étincelle de foi qui fait dire « Serait-ce le Christ ?» Au creux de toute rencontre, peut jaillir une chose, l'amour. La foi sans l'amour n'est rien. L'amour peut tout. Il transcende tout. Il est tout. Alors Seigneur, merci pour toutes les étincelles d'amour que tu sèmes dans nos vies. Que son esprit soit avec nous. Et je vous invite à prendre un instant pour nommer dans vos cœurs toutes les personnes à qui vous pensez. Et d'un même cœur et d'une même voix, nous te prions comme Jésus l'a enseigné à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, à vous lever. Comme le petit poisson de l'histoire qui nous a été raconté tout à l'heure, qui ne connaît pas l'eau alors qu'elle est essentielle pour lui, le renard du petit prince de Saint-Exupéry a un secret. Voici mon secret, dit le renard. Il est simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Doté de l'amour invisible de Dieu, nous sommes invités à poursuivre les rivières de nos existences. Deviens ce que tu veux donner. Paix, joie, amour, attention aux autres. Vis ce que tu crois et tu le transmettras. Traduis en bonne nouvelle, en acte, pardon, la bonne nouvelle reçue aujourd'hui. Dieu est ton ami, à tes côtés chaque jour. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur t'embarque. Que le Seigneur te donne la paix. Amen. Et nous chantons « Ô prends mon âme », le 44-14, page 670. Séfarade est toujours un petit peu mélancolique, mais je la trouve très inspirante. Pour autant, je vous souhaite à tous un bon dimanche.